franceinter.fr.
7h47 sur France Inter. Alain Baraton, vous piétinez d'impatience.
Pas du tout. J'écoutais avec beaucoup d'attention, d'autant que le Japon a été exploré par des botanistes dès le 19e siècle.
Et la Chine aussi.
Et que l'un des tout premiers qui a été autorisé à pénétrer au Japon était un Allemand du nom de Engelbert, et c'est lui qui a découvert le Ginkgo biloba. Nous sommes au 18e siècle, mais il a fait un voyage épique. Il était l'un des premiers et des très rares occidentaux à être tolérés dans le pays.
Il nous dit tout ça sans notes.
Quelle punition.
Non, mais c'est ce que disait Isabelle était passionnant.
Et alors la Chine, justement, du Japon à la Chine, il n'y a qu'un pas. Et le litchi, dont vous allez nous parler, il est originaire de Chine.
Eh oui, il est produit par un arbre fruitier de grande dimension qui peut atteindre 20 mètres de hauteur. Mais une question, Patricia Martin, pouvez-vous nous dire comment s'appelle l'arbre qui produit des litchis?
Non, je ne sais pas.
Ah.
Non, je ne sais pas.
Eh bien,
vous savez, Laurent Delmas,
pas du tout,
Isabelle,
le litchi,
vous savez,
non,
je sais pas.
Eh bien, comme pour les tomates ou les aubergines, l'arbre porte tout simplement le nom du fruit. On dit simplement un pied de litchi, ou si l'on possède, comme moi, des connaissances botaniques, un litchi chinensis.
Mais enfin,
c'était juste pour nous planter.
Je viens de le dire, j'avais dit le litchi.
Oui, ben non, mais c'est vrai.
Ah oui, d'accord, il faut le dire.
Parce que j'ai tellement surpris que Laurent Delmas ait une bonne réponse en botanique que ça m'a complètement échappé.
Ça, c'est pas gentil.
Mais je plaisante. Le litchi, si. C'est pas parce qu'il faut se taquiner. Je vous rappelle que le jardin, c'est l'école de la vie. Je dis souvent qu'un bon jardinier doit faire preuve de patience et d'avoir un sens aigu de l'observation. Il faudrait rajouter également le sens de l'humour, parce qu'on n'entreprend rien de grand sans avoir le sourire aux lèvres.
Vous faites bien de le dire, parce qu'il y a des auditeurs qui trouvent que je vous taquine trop et qui m'en veulent énormément.
Mais non, c'est ça le jardin.
Très très colère.
C'est ça le jardin. Le jardin, c'est un espace de vie. C'est un petit morceau de la planète. On se doit d'y rire. Le litchi, revenons-y, si vous le permettez, comme vous le disiez très justement, est cultivé en Chine depuis l'Antiquité et en France, et oui, depuis 1764, mais loin de Paris.
Vous
vous
en doutez.
En France métropolitaine, il faut attendre que Pierre Senrat revienne de Chine en 1781 pour découvrir le fruit.
La question que tout le monde se pose ici, en tout cas dans ce studio, et j'imagine les auditeurs chez eux, mais ce litchi, qui est-il et que fait-il?
Non, le Pierre Senrat, voulez-vous dire. Le découvreur, le premier qui va en parler.
Eh bien,
c'est un naturaliste qui voyage énormément. Il se fait connaître par ses ouvrages qui ont beaucoup de succès. Des ouvrages agrémentés de superbes dessins de mammifères, d'oiseaux et de plantes. C'est lui qui, en premier, en France, décrit l'arbre et le fruit. Et je tiens également à préciser que cet homme s'était fait connaître en son temps pour son obstination à lutter contre l'esclavagisme. Or, à cette époque, il était parfois courageux de de prendre de telles positions.
Et où est-ce qu'on cultive les litchis aujourd'hui?
Alors en Chine bien sûr, mais aussi en Thaïlande, sur l'île Maurice, au Brésil, au Vietnam, en Afrique du Sud, en Inde et dans bien d'autres pays encore comme Madagascar. L'immense majorité des litchis que nous consommons en France viennent par exemple, ou vient plutôt, de Madagascar.
Et si nous prenions l'idée de mettre un pied de litchi dans son jardin en France, on pourrait ou pas?
Eh bien c'est possible, mais alors oubliez une culture en plein air, il nous faudra prévoir une culture en pot. Comment faire? Je sais que Laurent Delmas...
Je voudrait... vais vous le demander.
Eh bien, donc je réponds à votre question.
Merci.
Choisissez un fruit bien mûr et enlevez le noyau. Mettez-le dans un pot rempli de terreau et arrosez sans attendre. Votre pot, bien sûr, sera placé en pleine lumière, l'idéal étant au plus près de la fenêtre. Les premières feuilles apparaîtront en quelques semaines seulement. Ensuite, arrosez copieusement au printemps et en été.
Ah ben ça, on essaye tout de suite. Et alors, est-ce qu'on peut espérer avoir des fruits et quand?
Eh bien, le litchi est présent aux Antilles depuis le 18e siècle et pourtant, sa culture n'y est guère répandue, les conditions climatiques ne lui convenant pas assez. Alors, la plante peut se développer, bien sûr, dans votre jardin, peut s'y développer, je parle des Antilles, mais la fructification est décevante. Alors, comment voulez-vous qu'un arbuste, ou un arbre plutôt, aux Antilles ne puisse pas donner suffisamment de fruits et que vous-même en France, vous puissiez espérer en obtenir, même en habitant la Côte d'Azur? Ça me paraît douteux. Donc, oubliez le litchi pour les fruits, mais c'est une belle plante. Puis c'est amusant de voir sortir de graines une tige et des petites feuilles.
Et puis c'est très très bon. Moi, je trouve ça très savoureux, les litchis frais surtout.
Tout à fait.
Les questions des auditeurs que j'ai sous les yeux. On va commencer par celle de Rosine, si vous voulez bien. Rosine aimerait reconstituer une petite haie de buis, mais elle n'en a pas les moyens. Elle a donc pensé à bouturer du buis. Est-ce facile? Oui, parce qu'il faut dire que les buis, c'est très cher.
Le buis est très cher. Il faut dire que le buis est un arbuste qui est long à se développer. Il prend son temps. Et il est vrai que le coût vient surtout de la durée de croissance. Mais il est vrai qu'il est facile de bouturer le buis, tout simplement.
Enfin, facile, le faire, non?
Vous c'est prenez tout simplement. Mais non, vous coupez simplement l'extrémité des tiges, des extrémités d'une dizaine de centimètres. Vous coupez d'une manière extrêmement précise. Le bois déteste être haché ou écrasé. Donc la coupure devra être Vous remarquez que je suis le spécialiste de la liaison qui n'a aucune raison d'être. Je mets des T souvent
mais
des S.
Alors, on s'en
mais
fiche.
C'est liaison dangereuse.
Oui, mais c'est charmant, je trouve.
C'est charmant,
donc,
c'est ce qui fait
vous coupez avec un couteau extrêmement affûté l'extrémité d'une tige de buis, vous supprimez l'ensemble des feuilles, à l'exception des deux dernières qui terminent la petite tige. Vous les enfoncez de 2 cm dans un mélange de sable, de terreau, vous arrosez, et je vous garantis que même si vous n'êtes pas très doué, même si vous n'avez pas trempé la base de la tige dans des hormones dites de bouturage, eh bien vous aurez 10% si vous êtes amateur de réussite, eh bien faites-en donc 100 et vous aurez donc 6 buis.
Ah
c'est facile
essayer,
et ça se fait maintenant, on peut les faire maintenant.
Clarisse a un pied d'anthurium, c'est ça ?
Anthurium.
Et elle ne comprend pas pourquoi les fleurs sont vertes.
Oh, vous connaissez cette plante, elle a des grosses feuilles qui ressemblent à des cœurs, et les fleurs sont le plus souvent rouges, on en voit des roses et des blanches, mais souvent rouges, ce sont des fleurs, là aussi en forme de cœur, avec un spadice un peu comme un arôme. Ce sont des fleurs très exotiques, qui vivent à l'ombre des arbres. Donc, première réponse à la question dans ce que je viens de dire, s'ils vivent à l'ombre des arbres, c'est qu'ils ne supportent pas les rayons direct du soleil. Mais ce n'est pas parce que la plante a besoin d'être en situation ombrée, qu'elle n'a pas besoin de lumière, et quand la fleur reste verte, c'est un problème de lumière. Il manque de la lumière, tout simplement.
Bien. Louis voudrait savoir quelle est la meilleure période de l'année pour planter des tomates.
Quand les gelées ne sont plus à craindre, arrêtons de courir.
En août, quoi.
Oui, non, n'exagérons pas non plus, quoique ma petite dame, il n'y a plus de météo. Non, le problème, voyez-vous, c'est que les tomates sont en vente très tôt en saison. On les installe, on les plante et elles meurent parce que le gel arrive. Technique de marketing, ma foi intéressante, on revendra 2 fois les mêmes pieds. Donc on prend le temps, tout simplement. Généralement, c'est le mois de mai. Vous savez que planter prématurément des tomates, il vous faut prévoir du plastique, des protections. C'est compliqué. Attendons le bon moment. Le pied heureux poussera beaucoup plus vite que le pied qui a eu du mal à démarrer. Ce qui signifie qu'un pied de tomate planté 15 jours avant la bonne date, eh bien, ne fleurira pas et ne fructifiera
pas. Tandis qu'après, c'est le pied pour la tomate.
Mais après, voilà, donc on plantera, allez, début mai, tranquillement, et après, voilà.
Edmond, je suis supposée prendre soin de la fougère de ma maman durant son absence, et je ne comprends pas pourquoi, mais elle perd ses feuilles. Qu'ai-je bien pu faire de mal ? C'est une jolie question.
C'est une jolie question et on peut même aller très loin parce que si elle est supposée prendre soin de la plante verte de la maman, j'en déduis que la maman est absente pour un certain temps et que Edmond a apparemment ne s'occupe pas beaucoup de cette plante verte qui doit être belle. On ne demande pas à quelqu'un de prendre soin d'une plante si cette plante ne donne pas de satisfaction. Donc, 2 cas de figure. Si les feuilles tombent, je ne vois que 2 possibilités. Manque de lumière, ce qui signifie que Edmond passe sa journée au lit à ne rien faire.
Vous êtes gonflé de dire ça.
Il n'y a aucune raison. Donc, 1er cas de figure, manque de lumière. 2e cas de figure, manque d'arrosage. Edmond se fiche un peu de la fougère de sa maman. Les fleurs
mais
peuvent être d'été.
Pas du tout, puisqu'elle se demande ce qu'elle a bien pu
elle
faire de mal.
Eh bien justement, elle se demande parce qu'elle constate maintenant les dégâts. Donc Edmond, on ne s'affole pas, on ouvre les fenêtres déjà pour aérer un petit peu la maison et éliminer les odeurs de tabac si on a fumé secrètement. Et surtout, on arrose la fougère qui ne supporte pas le manque d'eau.
Et est-ce qu'on a un petit conseil de fin de chronique à donner ?
Un bouquin que j'aime beaucoup, mais vraiment, Guide des curieux de nature en 150 scènes. C'est un livre de Vincent Albouy avec des illustrations magnifiques de Claire Felloni. C'est publié chez Delachaux et Niestlé. Ça coûte pas très cher, 19,90 €. Quantité d'histoires sur la nature, c'est magnifique. On y apprend quantité de choses. On y apprend, par exemple, le cœur de libellule au cœur de l'étang, le nid douillet dans une vieille tôle, des spectacle de la nature, c'est assez étonnant. On y a vraiment, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. Bon, oui. Je vous dis à demain.
À demain.